Nous lisons dans le livre des Rois, au chapitre 5, 2 Rois 5. Deux Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5, à partir du premier verset.
Deux Rois, chapitre 5, à partir du premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. »
Amen. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc c'est l'histoire d'un général syrien de l'époque qui se nommait Naaman. Et il nous est dit, dès le premier verset, « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. » Donc cet homme était général, donc le chef d'état-major de l'armée de Syrie, et il était l'ami du roi. Et en plus, il était fort et il était vaillant. Donc mentalement, il était fort, physiquement, il était fort. On peut supposer qu'il devait être aussi très riche, vu les cadeaux qu'il avait préparés pour celui qui le guérirait, et surtout sa position de chef d'état-major. Il était riche, il était général, ami du roi, et il était fort mentalement et fort physiquement. Mais il y a un grain de sable. Cet homme a vécu ce que moi je nomme le syndrome du grain de sable. Un engrenage ne fonctionne pas bien lorsqu'il y a un grain de sable. L'engrenage, c'est les roues dentées qu'on met dans les montres, dans les horloges, pour permettre que ça fonctionne normalement. Et quand il y a un grain de sable, ça ne marche plus bien. Et cet homme a vécu son grain de sable. Tout était parfait. Il était fort physiquement, fort mentalement, riche. Il avait tout, général, ami du roi, mais il a eu la lèpre, une maladie incurable. Non seulement une maladie incurable, une maladie invalidante et une maladie répugnante. Parce que quand on avait la lèpre, les gens fuyaient à notre vue. Et lui, il a eu la lèpre. C'est venu tout gâcher. Le paysage était hyper beau, fort, vaillant, riche, puissant, général, ami du roi. Mais cependant, il y a eu la lèpre. Et quelqu'un lui a dit, mais il y a un prophète en Israël qui peut te guérir. Lui, il était Syrien, une puissance plus forte qu'Israël. Mais il s'est dit, je mets mon nationalisme de côté, j'y vais, je veux être guéri, moi. Parce que là, avec la lèpre, je ne suis plus un humain. Tout le monde me fuit malgré ma richesse. Tout le monde me fuit malgré ma puissance. Je veux avoir la vie. Après tout, la vie est plus importante que le nationalisme. Alors, il s'en est allé en Israël pour être guéri. Arrivé là-bas, le prophète ne le rencontre pas, mais il envoie un messager lui dire, « Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain et tu seras guéri. » Le monsieur s'énerve. Son caractère d'homme d'autorité refait surface. Quoi ? Il ose me donner un ordre d'aller me laver 7 fois dans la rivière, dans le fleuve Jourdain. Mais chez moi, en Syrie, il y a des fleuves qui sont meilleurs, qui sont plus beaux. Si ce n'était qu'un problème de se laver, je me serais lavé chez moi. Et il s'en retournait en Syrie, furieux, en se disant, ce prophète n'a même pas eu la peine de venir me voir en personne. Mais ses serviteurs lui ont dit, chef, patron, mais le prophète ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Tu as fait des milliers, des centaines de kilomètres pour ta guérison. On te demande juste de te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a de difficile ? Nous pensons qu'il t'aurait demandé quelque chose de difficile. Peut-être des millions de dollars, tu les aurais donnés. Mais là, il te demande juste de te laver 7 fois. Obéis, c'est simple. Alors, il s'est ravisé. Il est parti se laver 7 fois. Et il était guéri de la lèpre. Il est revenu avec ses cadeaux en or, en argent, pour donner au prophète. Le prophète a dit, je ne peux pas recevoir ça. Pour la simple raison que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Moi, je ne suis qu'un instrument. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Dieu qui t'a guéri. Alors cet homme a dit, à partir d'aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Et c'est ce Dieu-là que je vais servir. Parce qu'il m'a donné la vie. Il m'a guéri de la lèpre. Voilà ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, je veux attirer notre attention sur le fait que dans notre vie à tous, il y a des grains de sable. Les grains de sable, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vient gâcher le paysage, qui vient gâcher l'ensemble. Tu as 3 enfants, tu as un bon boulot, paf, il y a une maladie qu'on trouve en toi qui vient tout gâcher. Tu peux être un homme fort, beau, beaucoup rempli d'intelligence, mais tu épouses une mauvaise femme. C'est le grain de sable. Et la Bible nous enseigne que dans tout homme, il y a des grains de sable. Et que c'est dû au péché d'Adam le premier. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de grain de sable. On a vu Mohamed Ali à 42 ans, il a eu la maladie de Parkinson. À 42 ans, au moment où il doit profiter de ses titres de champion, mais il a la maladie de Parkinson. On a vu Steve Jobs à 53 ans. Au moment où il doit profiter de ses milliards gagnés avec l'iPhone, il a un cancer qui l'emporte. Il y a toujours un grain de sable. Et le têtu qui va dire qu'il n'a pas de grain de sable, nous mettons le chrono, nous attendons 100 ans, on va voir s'il va vivre toujours. Un jour, il va mourir. Et c'est la mort qui est son grain de sable. Même si tu estimes que chez toi, tout va bien, mais tu vieillis, c'est ça le grain de sable. Le temps t'échappe. Dernièrement, Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. Vous savez ce que c'est que secrétaire général de l'ONU? Donc, vous n'avez pas besoin de visa pour voyager. Il y a des gens qui vous attendent à l'aéroport pour vous ouvrir les portes. Vous ne faites jamais les formalités. On vous prend en charge le téléphone, l'électricité, tout ce que vous voulez. Vous, vous venez, vous posez vos pieds à table, la nourriture vient. C'est ça, secrétaire général de l'ONU. Tous les présidents se prosternent devant vous. Mais il est mort. C'est ça le grain de sable. Il y a toujours un grain de sable. Et cet homme a vécu son grain de sable. Il a eu la lèpre. Mais il a eu l'humilité de mettre son nationalisme de côté. Quand on lui a dit, quelqu'un pouvait te guérir en Israël, un petit pays. C'est comme si on dit à un Américain, il y a un bon médecin au Sénégal qui peut te guérir. L'Américain va dire, quoi? Moi, aux États-Unis, c'est quelqu'un, un médecin au Sénégal, qui vient d'où? Mais du moment qu'il peut te guérir, mets ta fierté d'Américain de côté, va au Sénégal. Qu'est-ce qui est important? C'est d'être Américain ou d'être guéri? Après tout, le plus important, c'est quoi? Le monsieur a ravalé son orgueil, son honneur. Il est parti chercher la guérison auprès du prophète. Et là, un coup l'attend. On lui dit, va te laver. Le prophète ne le voit pas. Il dit, va te laver cette fois. Il s'énerve. Il dit, moi, le général, on n'ose même pas venir me parler en face. On me donne un ordre à distance. Mais ses serviteurs lui ont dit, mais patron, mais l'ordre est simple. C'est se laver cette fois. Ça, tu perds quoi? En fait, le vrai problème, c'était l'orgueil. Devant tes employés, on te dit, va te laver cette fois. Alors, il s'est énervé. Mais devant Dieu, tout le monde doit s'humilier. C'est ça le vrai problème, l'orgueil. Les humains ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Mais qui sommes-nous? Si Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, meurt, qui sommes-nous? Staline, Hitler, des grands maîtres, ils sont morts. Mais qui est l'homme devant Dieu? Rien du tout. Et cet homme a compris cela. Il a dit, mais je t'ai venu pour... J'ai un problème dans ma vie. Pourquoi je vais être vantard, orgueilleux? Et nous avons tous un problème. Le problème, c'est le péché. Quiconque dira qu'il n'a pas le péché est un menteur parce qu'il vieillit. Le fait que nous vieillissons et nous mourons, c'est le fait qu'il y a quelque chose de mal en nous qui se détruit. Parce que le diamant ne meurt pas, l'or ne meurt pas. Parce que ce sont des pierres, le diamant c'est une pierre parfaite. Et l'or c'est un métal parfait. Il ne s'oxyde pas. Si nous étions parfaits, nous ne nous oxyderions pas. Si nous nous oxydons, si nous vieillissons, c'est qu'il y a une imperfection en nous. Et la Bible dit que cette imperfection, le grain de sable fatal, c'est le péché, et ce péché entraîne la mort. Au cas où quelqu'un douterait qu'il a le péché, la mort lui démontrera qu'il a le péché, parce qu'il meurt, il vieillit, il se détériore. C'est ça notre grain de sable. On aimerait tant que cet après-midi ne s'arrête pas, mais ça va s'arrêter. Le soir va venir. Ce beau soleil va nous quitter pendant une nuit. Ça va revenir, nous quitter encore. Et nous, on va mourir, on va laisser cela continuer. On n'est rien du tout. Reconnaissons qu'il y a le grain de sable en nous. Et venons à Dieu pour régler ce problème. Maintenant, la question, c'est qui va régler ce problème. Parce qu'il y a le grain de sable qui est là, en nous. Il y a toujours un quelque chose. Maintenant, si quelqu'un dit, mais moi, j'ai tout bien, je suis en forme, je cours comme Usain Bolt, j'ai 4 voitures, 5 maisons, je suis beau, mais on dira, mon cher, chrono, on attend dans 100 ans si tu diras toujours la même chose. Donc, tout le monde a le grain de sable. Maintenant, la solution, c'est quoi? Qui peut nous sauver de la mort? C'est qui? Il faut que ce soit quelqu'un qui lui-même a vaincu la mort. Parce que sinon, c'est de l'escroquerie. Parce que beaucoup vont dire, mais oui, d'accord, mais qui va nous sauver de ça? Ben, on va le présenter. Mais chacun va dire, oh, mais chacun sa religion, chacun ses croyances. Ah oui, mais il faut qu'il y ait un aboutissement. Il ne suffit pas d'avoir sa religion, ses croyances, mais quel est l'aboutissement? Si l'aboutissement, c'est le néant. Vous savez, il y a des gens qui croyaient en Jean-Paul Sartre dans les années 60. L'aboutissement a été le suicide. Mais c'est ça une bonne croyance. L'être et le néant, il a fait un gros livre, un pavé qui s'appelle L'être et le néant. Les gens, en lisant ça, ils se sont suicidés. Ils ont trouvé que l'existence n'en valait pas la peine, ne valait pas la peine d'être vécue. C'est ça une croyance. Il y a des gens qui ont cru en Bob Marley, mais il est mort, il les a laissés. C'est ça la croyance. Il faut qu'il y ait un aboutissement. Il y a des gens qui croient en l'État. Ils croient au gouvernement, à la sécurité sociale. Mais on est en train de grignoter tout ça maintenant. Leur foi est en train de changer. Il y a des gens qui disent, mais moi je crois en la religion de mes parents. Mais où sont tes parents? Ils sont dans le tombeau, ils sont morts. Parce qu'après tout, le vrai problème, c'est de nous sauver du grain de sable qu'est la mort, avec son agent principal, le péché, qui produit cette mort-là. C'est ce que la Bible nous explique. C'est le péché qui produit la mort. Qui va nous sauver de ça? Donc nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 22. Il y a quelqu'un qu'on appelle Paul, un serviteur de Dieu, qui arrive dans la ville d'Athènes, en Grèce. Il arrive à Athènes. Et il voit à Athènes, il y avait toutes sortes de dieux, toutes sortes de religions, toutes sortes de statues. Il y avait même une statue dédié à un Dieu inconnu. Maintenant, il va dire, mais ne croyons pas pour croire. Il faut qu'il y ait un aboutissement. Il faut que ça soit solide. Il faut que ça soit reliable, comme on dit en anglais. Il faut que ça soit solide, consistant. Nous lisons Actes des Apôtres 17, 22.
Actes chapitre 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. De Nice, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux.
Voilà, Paul arrive à Athènes. Il voit toutes sortes de statues de dieux. Il y avait même une statue dédiée à un dieu inconnu. Paul dit aux hommes qui étaient là, puisqu'on l'a amené à l'Aréopage, une sorte de monticule, et il a commencé à parler. Il dit, mais ce que vous cherchez à adorer à travers toutes ces statues, vous ne connaissez pas. Parce que le Dieu qui a fait les cieux et la terre ne peut pas être une statue. Il ne peut pas être un temple. Ce n'est pas un bâtiment, puisque lui, il a fait l'univers. Il est plus grand que cela. Je vous annonce, qui est ce Dieu-là? Il a fait les cieux et la terre et il nous a parlé par une personne. Et comment nous savons que c'est la bonne personne, pas une autre? Parce que cette personne a vaincu le grain de sable. Il a vaincu la mort. Donc c'est le détail que Paul donne au verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus a vaincu la mort. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est le seul dans toute l'humanité à avoir vaincu la mort. Il donne ainsi la preuve que c'est lui le canal de Dieu. Parce que à quoi ça sert de croire en un Dieu qui ne te sauve pas de la mort? Est-ce que la sécurité sociale te sauvera de la mort? Est-ce que ton argent dans les banques te sauvera de la mort? Si c'était le cas, Steve Jobs aurait été sauvé. D'ailleurs, Steve Jobs a dit, le lit de l'hôpital, c'est le lit qui coûte le plus cher parce que je ne peux pas payer quelqu'un pour prendre ma place à l'hôpital. Son argent ne suffisait pas pour payer quelqu'un pour prendre son cancer. Il pouvait proposer $1 milliard, personne n'aurait dit oui. Et il est mort comme ça, avec des milliards dans son compte bancaire. Il faut croire pour qu'il y ait un aboutissement, pour qu'il y ait un salut. Ce n'est pas la magie qui va te donner la résurrection. Nous avons connu des féticheurs, des magiciens, des astrologues, des voyants qui sont eux-mêmes morts de cancer et d'autres maladies. Et ils ne sont pas revenus à la vie. On a entendu parler des prophètes. On a entendu parler des hommes éminents, des savants, Einstein, prophètes par-ci, prophètes par-là. Mais ce sont des gens qui sont morts et qui sont dans le tombeau aujourd'hui. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils prêchent aux gens le ciel, la vie éternelle, mais eux-mêmes, ils ne sont pas revenus à la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a les moyens de sa politique. Il te dit, si tu crois en lui, le grain de sable est vaincu. Tes péchés seront pardonnés et tu recevras la vie éternelle. Quand bien même tu mourras, il te ressuscitera comme lui-même est ressuscité. On peut lui faire confiance parce que lui-même est ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi nous croyons en lui. Et aujourd'hui, ce même Jésus t'invite à mettre ton nationalisme de côté, ta culture de côté, ton honneur personnel de côté, ton orgueil. Vous savez, les gens ont une identité, mais l'identité, est-ce que ça guérit du cancer? Est-ce que ça guérit de la maladie? Non. T'as beau dire, je suis chinois, je suis japonais, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. T'as beau dire, je suis fils d'un tel, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est le véritable sauveur seul qui peut te sauver. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Et Dieu nous donne le chemin pour être sauvé, c'est Jésus. Comment nous le savons? Il est le seul à avoir vaincu la mort. Voilà comment nous le savons. Et aujourd'hui, Jésus te parle. Il veut te voir sauvé pour t'amener un jour au paradis. Quand Jésus a été crucifié à la croix, il a pris nos péchés sur lui. C'est pourquoi il a été condamné. Il était innocent, sans péché, pur totalement. Mais pour nous sauver, Dieu a pris nos péchés, il a mis sur Jésus. Et c'est lui qui a été condamné à notre place. C'est comme si tu as péché et c'est ton jumeau qui prend ta place en prison. Toi, tu es libre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris notre place à la condamnation afin que nous qui croyons en lui, nous soyons pardonnés, nous recevions la vie éternelle. Comment on peut refuser un salut si beau, si grand et gratuit? Qu'est-ce que tu perds en acceptant ce salut-là? Mettons l'orgueil de côté. Mettons notre passé de côté. Cherchons la vie éternelle. Un jour, nous mourrons et notre nationalisme ne nous sauvera pas. Notre culture ne nous sauvera pas. Le fait qu'on porte le nom de quelqu'un ne nous sauvera pas. Le fait qu'on soit président ne nous sauvera pas de la mort. Mais un seul peut nous sauver de la mort, c'est Jésus. Comment nous le savons? Il est ressuscité lui-même. Il a vaincu la mort. Un seul nous aime vraiment, c'est lui. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a été crucifié pour nous à la croix. Afin que nous soyons pardonnés. Comment rater un salut si simple, beau et gratuit? Voilà l'invitation que Dieu nous fait. Venons à Jésus gratuitement. Vous savez, on a demandé au monsieur qui avait la lèpre, « Va te laver 7 fois dans l'eau. » Une instruction simple. Il est monté sur ses chevaux à cause d'une instruction simple comme ça. Aujourd'hui, je vous donne une instruction. Je nous donne une instruction simple. Tout seul, tu dis à Dieu, Dieu, si c'est vraiment Jésus, ton canal pour mon salut, montre-le-moi, révèle-moi parce que je ne veux pas louper la vie éternelle. Je veux vivre éternellement. Révèle-toi à moi. C'est une instruction simple, hein? Juste une phrase. Mais certains, par orgueil, refuseront quand même de faire cette phrase-là. Mais l'orgueil a amené beaucoup de gens dans les cimetières. Humilions-nous devant Dieu, qui que nous soyons. Nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que ta parole change les cœurs pour les amener à toi. Que tu nous fasses comprendre que l'homme n'est rien, il est si petit, et toi tu es si grand, toi qui as créé l'univers. Car si tu as créé l'univers, tu es plus grand que l'univers. Que le cœur se tourne vers toi, toi qui sauves gratuitement. Manifeste-toi en amenant chaque personne en ce lieu à te poser la question sur Jésus pour son salut. Et à recevoir Jésus pour son salut. Nous te bénissons pour ta fidélité. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles.